21h passées de quelques secondes sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre à bord de Wagon Livre sur votre radio locale. C'est d'ailleurs ce soir le 319e numéro. Nous partagerons aujourd'hui avec vous des reportages réalisés le 29 octobre dernier lors de la 10e fête du livre de Saulieu en Côte d'Or, un salon sympathique organisé par la bibliothèque et l'Office municipal de la culture, un salon qui s'est tenu à l'espace Jean Bertin. Et cette année 2017, c'est la romancière Carine Lebert qui en était l'invitée d'honneur. Carine Lebert publie régulièrement des romans aux éditions des Presses de la Cité et le tout dernier a pour titre « Les Demoiselles de Beaune ». Sans plus tarder, Carine Lebert à notre micro.
Je m'appelle Carine Lebert, je suis auteure aux Presses de la Cité. Je viens de Normandie, plus exactement du Calvados. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être au Salon du Livre de Saulieu. Alors si je dis honneur, c'est que je suis invitée d'honneur. Et ce, pour la première fois. Donc j'en suis d'autant plus émue que ce soit la Bourgogne qui m'ait mis en lumière aujourd'hui.
Alors Carine Lebert, premier roman en 2009 intitulé « Nina et ses sœurs ». Un petit mot sur ce roman.
Alors,
le premier
d'une
lignée.
Oui, c'était aux éditions de Boré à l'époque. Donc, un roman terroir. Mes premiers romans sont très terroirs. Donc, j'ai mis en valeur au début de ma petite carrière, on va dire, la Normandie, puisque je suis née en Normandie. Ma région, dans Nina et ses sœurs, Le secret d'Emma, Les mystères de Camille. On reste en Normandie, à Rouen, dans le Calvados, dans le Pays de Caux, Seine-Maritime. Et des romans terroirs qui évoquent la campagne, les fermiers, à des époques un petit peu différentes, 1900-1930, 1930-1950 ou fin 19e, et dans différents coins de Normandie. Donc ça, c'est mes trois premiers romans chez De Boré. Ensuite, j'ai un petit peu changé de voie, toujours dans la même maison d'édition, avec Loin de Margot, qui est un roman plus historique se passant pendant la Seconde Guerre mondiale.
Loin de Margot, donc en 2012, Sortilège du Tremblay en 2013. Ce que Fanny veut, c'est l'histoire d'une jeune fille venant d'un milieu modeste qui essaie de travailler à une ascension sociale dans les années 1800...
Fin 19e
siècle.
Voilà.
Hein.
Alors là, c'est quand même une époque charnière de ma vie professionnelle, dans le sens où j'ai quitté De Boré pour intégrer les Presses de la Cité. Et donc, Ce que Fanny veut a été publié aux Presses de la Cité. Donc là, plus roman historique, roman léger aussi, je dirais, d'une jeune fille pétillante qui souhaite réussir dans la vie par tous les moyens, pas toujours les plus honnêtes, on va dire, qui a beaucoup de volonté, de courage, et qui peu à peu gravira en effet les échelons de la société, en partie grâce aux hommes, hein, parce qu'à l'époque, il ne faut pas se voiler la face, ça se passait comme ça. Et donc c'est une petite chippie, Fanny, mais qui est très attachante.
Une jeune fille pauvre qui rêve de s'élever dans la société, c'est un petit peu l'inverse du Georges Duroy dans Belle Amie de Maupassant.
Alors,
du roi réussit grâce aux femmes, et là, votre héroïne, elle réussit
féminin.
Grâce aux hommes, c'est le pendant féminin.
C'est un petit peu le pendant féminin. J'ai voulu montrer, alors c'est pas seulement cette jeune fille, j'ai voulu montrer surtout aussi le Montmartre des peintres, fin 19e, toute cette époque truculente, Montparnasse aussi. Et puis j'ai voulu évoquer dans ce livre tous les milieux de l'époque, c'est-à-dire aussi bien le milieu modeste où est née Fanny que le milieu bourgeois par l'intermédiaire d'un personnage qui s'appelle Vincent, ou le milieu aristocratique. C'était très codifié à l'époque, hein. Les classes ne se mêlaient pas. Et Fanny réussit finalement, en côtoyant tous ces hommes, à côtoyer aussi bien la bourgeoisie que l'aristocratie, ce qui était assez rare à l'époque. Voilà, je dirais que c'est un roman, encore une fois, alors comme tous mes romans, là, c'est vraiment le fil conducteur, ce sont des romans de femmes, des romans sur les femmes. Ça, c'est vraiment, j'en suis fière, j'ai toujours voulu mettre les femmes à l'honneur, surtout à des époques où elles étaient beaucoup dans l'ombre. Et où elles avaient plus de devoirs que de droits. Et puis, bon, en ce moment, on parle beaucoup des femmes aussi. Donc, c'est vraiment des... Ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur.
Et Carine Lebert, quand on fait baigner son héroïne dans l'époque de ce qu'on appelle la belle époque, il y a toute une documentation historique indispensable autour de l'écriture du roman.
Ah, tout à fait, même les romans terroirs, de toute façon, aussi bien Nina, Le secret d'Emma, comme ce ne sont pas des romans contemporains, et puis même pour un roman contemporain, il faut se documenter, donc ils font tous l'objet d'une documentation. Et là, en l'occurrence, le Montmartre des peintres, bien sûr, je me suis documentée. Des personnages ayant existé interviennent dans l'histoire. Toutes mes héroïnes sont fictives, mais elles rencontrent des personnages réels et puis tout le contexte de l'époque, bien sûr. Il y a à peu près trois mois de recherche avant d'écrire un roman, plus pour le dernier, on en parlera tout à l'heure, qui est vraiment, là, pour le coup, très historique. Mais il y a toujours cette phase de recherche et ensuite la phase d'écriture.
En prenant connaissance du synopsis de votre roman intitulé « Ce que Fanny veut », vous revenez aussi sur un terrible fait divers, à savoir l'incendie du bazar de la Charité. Je crois d'ailleurs que la sœur de l'impératrice Sissi a péri dans cette terrible incendie.
Il y a eu énormément parmi les membres de l'aristocratie de décès, et en particulier les femmes, d'une part parce que leur robe se prêtait aux flammes, si je puis dire, et d'une part parce qu'une certaine catégorie d'hommes de l'aristocratie s'est pas très bien comportée et a cherché à toute force à survivre et finalement à piétiner les femmes qui avaient moins de force pour sortir. Ça a été terrible. Et par comparaison, il y a eu des gens du peuple, des hommes qui, presque au péril de leur vie, ont sauvé des femmes. Donc là, il y a eu un scandale un petit peu dans la presse qui a été étouffé parce que l'aristocratie de l'époque se disait très galante, très faut faire passer la femme en premier et tout. Et en fin de compte, leur attitude n'a pas été très, très galante, justement. Et en revanche, les hommes du peuple se sont bien défendus. Mais cet incendie, comme vous le dites, a été terrible pour l'aristocratie, puisque c'était un essai des frères Lumière, le cinématographe. Et il faut imaginer une très grande salle. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les sorties de secours qu'on voit aujourd'hui. Et il y avait des grandes draperies partout, parce qu'il y avait des stands tenus par des femmes, justement. C'était dans un but charitable pour récolter de l'argent. Et il y avait des draps partout, des dentelles qui s'enflammaient très, très vite. Et le feu s'est développé à une vitesse stupéfiante, a pris tout le monde de court et tout le monde s'est rué vers les peu de sorties qu'il y avait, et ça a été vraiment terrible.
Quels sont vos rituels d'écriture? Dans quelles conditions vous mettez-vous lorsque vous êtes chez vous pour écrire? À quel moment vous écrivez? Est-ce qu'il y a des moments de la journée que vous privilégiez plutôt que d'autres?
Alors, ce qu'il me faut surtout en priorité, c'est le calme et le silence. Donc, c'est chez moi, dans la campagne normande. J'habite près d'Honfleur, dans mon bureau, pour écrire en toute sérénité. En revanche, le moment de la journée, ça dépend de mes activités. Alors, le travail d'écriture est évidemment statique. Donc, en contrepartie, on essaie un peu de faire du sport. Donc, il y a un moment de la journée où je m'active, si je puis dire, et l'autre où c'est plus cérébral et où je suis face à l'ordinateur et où je travaille. Mais suivant les obligations de la journée, je peux aussi bien écrire le matin que l'après-midi. C'est pas tellement le moment de la journée qui compte que le lieu. Je serais incapable, je sais que certains auteurs le font tout à fait bien, mais moi je serais incapable d'écrire dans un café au milieu du bruit. Et je serais même incapable, je pense, d'écrire hors de ma maison. C'est vraiment le cocon de ma maison et le silence et la nature qui m'entourent qui sont propices à l'écriture pour moi.
Dans une interview de vous disponible sur le site internet des Presses de la Cité, j'ai noté que ce sont souvent des coups de cœur qui vous amènent à des idées de narration, des idées d'histoire. Par exemple, lorsque vous vous rendez au Vietnam, la découverte de ce pays vous a suggéré une histoire que vous avez écrite.
Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment récurrent. C'est un coup de cœur pour un lieu, en fait, une région ou alors un pays. Alors vous évoquiez donc la Dame de Saïgon. En effet, j'ai passé avec mon mari 3 semaines au Vietnam. J'ai adoré ce pays et tout de suite, je me suis dit, il y a une histoire à écrire se situant au Vietnam. Alors en revanche, comme c'est un roman historique, c'était l'Indochine à l'époque et j'ai imaginé en effet la Dame de Saïgon. Alors pareil pour les brumes de Vouvray, la Touraine. J'ai eu un coup de cœur pour la Touraine. Des lieux en Normandie qui me parlent, d'autres moins, je sais que j'écrirai jamais sur eux. Et le dernier, bien sûr, on va l'évoquer tout à l'heure, les Hospices de Beaune, où là, la visite m'a fascinée et a donné lieu à ce roman.
Noël approche à grands pas et les idées cadeaux ne vont pas manquer dans le wagon-livre de ce soir et dans les numéros des semaines à venir. Je rappelle le titre du dernier roman de Karine Lebert, Les Demoiselles de Beaune, préfacé par Michel de Decker, et l'ouvrage est disponible en librairie aux éditions des Presses de la Cité. Un livre qui nous fait pénétrer dans le patrimoine historique remarquable de la Bourgogne et qui nous offre un agréable vagabondage dans le XVe siècle. Très bonne soirée sur Radion, à bord de votre émission littéraire Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour vous offrir des reportages enregistrés lors de la 10e fête du livre de Saulieu. Nous retrouverons Karine Lebert dans une poignée de minutes. Place à la musique et Wagon Livre revient juste après.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Le 29 octobre dernier, nous nous sommes rendus en Côte d'Or à la 10e fête du livre de Saulieu, dont la romancière Karine Lebert était l'invitée d'honneur. Nous la retrouvons dans le reportage qui suit pour nous présenter son dernier roman intitulé « Les Demoiselles de Beaune », disponible en librairie aux éditions des Presses de la Cité. Karine Lebert.
C'est un roman historique. Donc là, pour le coup, la recherche a été très ardue parce qu'on est au 15e siècle, 1443, la pose de la première pierre, donc des hospices de Beaune. Et donc, quand j'ai commencé, je vais vous dire un peu la genèse de ce roman. C'est bien entendu une visite des hospices qui m'a complètement fascinée et émerveillée. Et à la sortie, à la fin de cette visite, je suis allée dans la boutique et j'ai cherché un roman ayant pour cadre les hospices. Je n'en ai pas trouvé. De retour chez moi, j'ai cherché sur mon ordinateur. Je n'en ai pas trouvé. Et là, je me suis dit, mais il faut l'écrire. Et je m'interroge même encore maintenant en me disant, mais comment un auteur, et un auteur bourguignon plus particulièrement, n'a pas eu l'idée, parce que c'est complètement romanesque, ces hospices de Beaune, d'écrire un roman historique donc sur les hospices de Beaune. Et quand j'ai appelé les hospices, j'étais en relation avec Bruno François, qui est le chargé des collections. Il m'a énormément aidé pour la documentation. Et quand je lui ai dit que j'allais écrire ce livre, il m'a dit, enfin. Parce qu'il était vraiment très satisfait qu'un auteur ait eu cette idée. Et donc Bruno François m'a énormément aidé parce que il y a très peu de documentation sur l'époque. Hein, on est quand même 1443 et surtout la documentation est essentiellement en vieux français. Et il a fait en sorte de m'envoyer tous les documents lisibles, accessibles et qui pouvaient vraiment m'aider pour la rédaction de ce roman Les Demoiselles de Beaune.
Ce n'est pas périlleux de mélanger la petite et la grande histoire surtout parce que à la limite les historiens, les érudits pourraient ensuite démonter le roman en disant oui, ce qu'écrit Karine Lebert est bien charmant, l'intrigue est agréable, mais la vérité historique n'est pas respectée.
Alors ça, c'est le propre du roman historique, mais en fait, c'est compliqué parce que moi, je trouve que c'est l'idéal, le roman historique, dans le sens où c'est ludique, il y a des rebondissements, on a des personnages fictifs qui bénéficient du coup d'une certaine liberté et en même temps on apprend plein de choses, mais c'est pas trop scolaire, c'est pas trop ardu à lire, c'est pas trop barbant, je vais me faire des ennemis, mais voilà, la lecture est facile. Alors après, j'ai vraiment respecté l'histoire des hospices, hein. J'ai pas raconté n'importe quoi, c'est-à-dire que toute la construction des hospices, c'est grâce à la documentation que j'ai pu décrire tout cela. J'ai fait intervenir des personnages ayant existé, comme les fondateurs des hospices, bien entendu, Nicolas Rollin, Guigonne de Salins, aussi une mère supérieure qui était très cruelle, qui venait de Belgique et qui voulait faire pénétrer dans les hospices, ces hospices laïques avec des règles assez souples, les règles des sœurs cloîtrées avec une discipline très dure. Elle réveillait les sœurs la nuit pour faire pénitence. Enfin, elle s'appelait Alardine Gasquier et c'est aussi un personnage qui a existé. Mais il faut savoir que sur cette femme, par exemple, il y a pratiquement rien. Donc, à un moment donné, on est obligé un petit peu de romancer. Et même l'historien pur et dur, si je puis dire, ou alors il se contente d'une phrase, mais on est quand même très loin dans le passé. Donc, on est un petit peu obligé de romancer. C'est le propre du roman historique, donc on ne peut pas m'attaquer là-dessus, puisque c'est dit dès le départ, roman historique.
Est-ce que vous vous projetez un peu d'un point de vue caractériel, physique, sur certaines des personnages?
Oui et non, parce qu'il faut faire attention à ça. Bien sûr, j'éprouve beaucoup d'empathie pour mes personnages féminins, surtout l'héroïne, Balbine, telle qu'elle soit d'ailleurs dans tous mes romans. Mais il faut rendre les choses crédibles, donc avec pour les romans historiques en tout cas. Et les sensations de l'époque, les émotions des femmes, leur physique et tout étaient tellement différents de celles d'aujourd'hui qu'on ne peut pas se permettre de trop faire de comparaisons. Mais il est évident que je me suis énormément attachée à Balbine et toutes mes héroïnes, ce ne sont pas des reflets de moi-même, mais ce sont un peu comme mes enfants, finalement.
Le préfacier de votre roman, Michel de Decker, termine son texte en écrivant « Résultat, un Lebert grand cru à consommer sans modération ».
Il a beaucoup d'humour, Michel. Alors Michel, on le voit intervenir dans l'émission de Stéphane Bern, Secret d'Histoire, régulièrement. Il est normand, il est historien, il travaille aussi sur une radio normande bien connue. Et donc, il a eu la gentillesse de faire la préface. Je lui ai soumis le roman, le manuscrit du moins. Il l'a lu, il l'a aimé, il a accepté de faire une préface. Donc, c'est une caution, évidemment, dont je suis très fière, puisqu'il a une renommée nationale maintenant.
Arrêtons-nous sur votre héroïne, qui se prénomme Balbine, Balbine de Joinville. Alors, quelles sont ses origines et quel lien va-t-elle entretenir avec ces somptueux hospices de Beaune?
Alors, le roman débute avec la pose de la première pierre en 1443 et Balbine, elle a alors 7 ans. Donc, on va la suivre toute sa vie. Alors, il ne faut pas déflorer toute l'histoire, mais disons que sur ses origines, je ne peux pas trop parler. Il y a un petit mystère, justement. En fait, au début du livre, elle ne s'appelle pas de Joinville. Elle va se rendre compte qu'elle a un père noble. Ça, on le verra tout au long de l'histoire. Et il y aura aussi un épouvantable drame dans sa vie qui influencera en fait toute son existence. Mais au-delà de ça, elle va grandir en même temps que les hospices. C'est stupéfiant à l'époque parce que les hospices ont évidemment été une chose énorme pour Beaune. Ça a amené la renommée de Beaune, ça a amené les emplois pour tous les artisans qui ont fondé ces pierres. Mais en revanche, ça a été beaucoup de perturbations pour les habitants. Ça a duré des années, il y a eu énormément de retard. Et Balbine, finalement, elle grandit en même temps que les hospices s'érigent. Donc elle assiste à la fondation des hospices, elle vit avec eux et peu à peu, en grandissant, elle a envie de devenir sœur. Mais elle se dit qu'elle n'a pas envie non plus de prononcer des vœux et de devenir religieuse, jusqu'à ce qu'on lui explique, ce qui était révolutionnaire pour l'époque, que ces sœurs, ces dames hospitalières, pouvaient révoquer leurs vœux et fonder une famille si elles le souhaitaient. Car en fait, les fondateurs voulaient un établissement laïque et pas du tout une règle de couvent avec des sœurs cloîtrées et des règles très strictes. Et c'est ça qui était... Il y a ce côté-là révolutionnaire, et le second, c'est qu'on puisse bâtir un tel lieu confortable et presque luxueux pour des pauvres, ce qui n'était pas du tout dans l'esprit de l'époque. Tous les matins, il y avait une centaine de pauvres à la porte des hospices pour recevoir le pain. Et surtout, il y avait ces pauvres qui étaient dans la fameuse salle des pauvres que tout le monde connaît. Mais c'est très luxueux, c'est des matériaux très luxueux. Il y a la tuile vernissée de Bourgogne qui, normalement, était sur les habitations bourgeoises, aristocrates, mais pas sur un hôpital. Et Nicolas Rollin et Guigonne de Salin se disaient que voilà, les pauvres avaient droit aussi à ça. Et ça aussi, c'est l'esprit révolutionnaire. On est quand même en 1443, on n'est pas en 19e, donc c'est extraordinaire.
Alors, quels sont les principaux ingrédients de votre histoire? Donc, bien sûr, la grande histoire, la petite histoire de votre héroïne, l'amour, la maladie, la souffrance.
Alors, la souffrance dans le sens où je vous dis, Balbine subit un drame, mais ça, je ne veux pas dire quel drame, le lecteur le découvrira. Donc il y a une forme de résilience aussi dans sa vie. Il y a une petite histoire d'amour. Alors Balbine, en tant que sœur, en tant que dame hospitalière, éprouve des sentiments pour un médecin, mais je dirai rien de plus au lecteur de le découvrir. Il y a surtout des rebondissements. La seule liberté que je me suis permise dans l'histoire par rapport à la réalité, c'est le fait que mon héroïne Balbine ait une certaine liberté de mouvement pour sortir des hospices, voir sa famille, ce qu'elles n'avaient pas forcément les sœurs à l'époque, puisqu'elles devaient sortir en étant deux, il y avait quand même certaines règles à soutenir. Et là, je me suis permis, en qualité de romancière, pour les besoins de l'histoire, de la faire sortir plus librement qu'à l'époque elle le faisait. Mais autrement, je décris toute la vie quotidienne aux hospices, d'une façon très précise. C'était vraiment, elles vivaient en autarcie, elles étaient très autonomes. Il y avait tout ce qu'il fallait aux hospices pour qu'elles puissent vivre au quotidien. Une très grande cuisine, un potager. Il y avait même le cimetière pour les malades qui mouraient sur place et dont personne ne souhaitait récupérer le corps. Il y avait bien sûr l'infirmerie. Il y avait l'infirmerie des sœurs. Il y avait une pièce dédiée aux sœurs pour leur fin de vie, où elles avaient une vieillesse tranquille, une mort tranquille. Il y avait cette salle des pauvres que tout le monde connaît. Enfin, c'était vraiment très, très bien organisé. C'était extraordinaire, en fait. Et j'avais à cœur de décrire surtout la vie quotidienne, le sacerdoce journalier d'une dame hospitalière, avec toutes ces règles des hospices extraordinaires.
On rappellera donc le titre de votre dernier roman, Karine Lebert, Les Demoiselles de Beaune. C'est aux éditions Presse de la Cité avec une préface de Michel de Decker. Vous êtes sur un prochain projet d'écriture.
Oui,
et quel
oui,
est-il
oui.
Si on ose vous poser la question.
Je n'ai pas trop le droit de parler du sujet. Par contre, ça se passera en Normandie cette fois-ci et il sortira aux Presses de la Cité en avril 2018.
Karine Lebert, à l'instant à notre micro, l'invité d'honneur de la 10e fête du livre de Saulieu, évoquait son dernier roman, Les Demoiselles de Beaune, que vous pouvez vous procurer ou offrir à Noël. Le livre est édité par les éditions des Presses de la Cité. Et si vous le voulez bien, nous allons marquer une nouvelle escale en musique. Et nous revenons juste après avec un ouvrage des éditions de l'Armançon, Les Racines au cœur, premier roman de Agnès Panet, vigneronne à Sologny dans le Mâconnais, un roman qui est une histoire de vignerons et de leur noble travail de la terre et du vignoble. C'est votre émission littéraire hebdomadaire. Merci de suivre Wagon Livre sur le 90.5 en modulation de fréquence dans Yonne ou en direct sur le www.radion.fr aux quatre coins de la Bourgogne et de France. Vous êtes bien sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
J'ai dans mon chapeau de magicien de la poudre de perlimpinpin, quelques chamallows de trois lapins, de quoi me sentir bien. J'ai pu lire dans le creux de ta main, car je suis un petit peu de vin, que nous partagerions nos chagrins et nos sourires coquins. Mais que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche ou
un joli dessin. Ne sois pas farouche, si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que fais-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, pour un joli dessin. Ne sois pas farouche, et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Je ne sais si tu crois au destin, peut-être as-tu peur des baladins. Mais si tu le souhaites un beau matin, nous prendrons ce chemin.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Elle est née de parents instituteurs et après un baccalauréat littéraire, Agnès Panet rencontre à Solony, en Saône-et-Loire, Éric Panet, son futur mari avec lequel elle va découvrir le métier de vigneron. Le couple s'installe avec alors seulement 1,5 hectare de vignes en appellation Mâcon Rouge et Agnès devra mettre entre parenthèses pendant de nombreuses années son désir d'écriture pour construire le domaine peu à peu et tenter de subvenir ainsi aux besoins de la famille. L'an dernier, Agnès Panet fait paraître son premier roman, qui est accueilli par Gérard Gauthier, créateur des éditions de l'Armançon, et qui le fait publier par sa maison d'édition. Tout de suite, Agnès Panet à notre micro. C'était le 29 octobre dernier, lors de la 10e édition du Salon du Livre de Saulieu.
Je m'appelle Agnès Panet, je suis vigneronne dans le Mâconnais. Fille d'instituteur, j'ai d'abord fait un bac littéraire. Et puis, je n'ai pas poursuivi mes études. J'ai rencontré un jeune homme qui faisait des études agricoles et viticoles et qui souhaitait être vigneron. Et je l'ai suivi sur ce parcours-là. J'ai donc suivi une formation adulte dans un CFPPA pour apprendre ce métier que je ne connaissais pas du tout et qui m'a passionné.
Alors, Agnès Panet, ça, c'est les petits éléments biographiques pour vous connaître. Vous venez de faire paraître, ça date un peu, mais l'ouvrage est toujours disponible dans toutes les librairies de Bourgogne. Un premier roman, c'est le premier
c'est
texte.
C'est un premier roman qui s'appelle « Les racines au cœur ».
Les racines au cœur, aux éditions de l'Armançon. Voilà. Et c'est l'histoire d'un vignoble familial dans le Mâconnais. Et c'est l'histoire d'une succession, c'est l'histoire de l'héritage, la transmission de quelque chose de précieux, voire de sacré.
Bien sûr.
Dans les familles de vignerons.
Bien sûr que c'est sacré. C'est sacré dans tout le monde paysan, que ce soit dans la viticulture ou dans d'autres productions. Mais c'est toute la difficulté de la transmission dans ce métier-là. C'est qu'on ne transmet pas que des traditions, on ne transmet pas qu'un savoir-faire, on transmet aussi un patrimoine foncier, et avec un attachement à cette terre qui vient des ancêtres et qui est marqué forcément par des souvenirs. Les racines sont dans le cœur.
Voilà. L'action se situe à Solony, qui est un village qui existe réellement.
Voilà, Solony, c'est le village où je suis vigneronne. Il existe. Alors, j'ai complètement transformé, évidemment, les noms de lieux. Les noms des personnages ne font bien sûr pas référence à des familles existantes.
Mais calqués sur certains caractères que vous connaissez.
Oui, forcément. On trempe forcément sa plume dans un vécu. Les personnages sont un patchwork de rencontres qu'on a pu faire. Ils ne définissent jamais complètement quelqu'un que vous avez rencontré, mais oui, ils ressemblent forcément un peu.
Et vous nous ramenez 40 ans en arrière, puisque le roman s'ouvre en novembre 1976.
Voilà, oui. On commence
dans des conditions où la viticulture reste une affaire familiale, un artisanat, ou alors il y a une transition qui est en cours.
La transition a commencé dans la fin des années 60, début des années 70, avec la mécanisation qui a atteint la viticulture, qui avait déjà atteint les autres productions, mais qui a atteint la viticulture avec l'apparition des enjambeurs, l'utilisation de la chimie, des désherbants, des pesticides qui vont complètement transformer le travail du vigneron et qui vont transformer le profil des exploitations. Elles vont passer de surfaces qui étaient de 1,5 hectare, 2 hectares, 3 hectares à des surfaces beaucoup plus importantes. Et c'est vrai que c'est une période qui était un petit peu à la charnière de ce passé vigneron besogneux et très soumis à un travail pénible, à la dureté physique.
Alors, ce sont surtout les hommes qui travaillent dans les vignes, voilà, dans votre roman, voilà, mais les femmes sont aux côtés. À la maison, elles épaulent, et il y a une vie de famille qui est chaleureuse, il y a cette convivialité des vendanges, voit là, vous le racontez, c'est un grand bonheur de lire ça.
C'est la réalité des familles vigneronnes de l'époque, hein. De toute façon, les enfants sont mis à contribution, certains travaux, alors les auditeurs qui connaissent bien le monde des vignerons, évidemment que ça leur parlera quand on parle des relevages, des accolages. Enfin, chaque région a un petit peu son terme pour parler de ça. Il faut faire un travail rapidement, très vite, et on embauche tout le monde pour faire ça le plus vite possible.
Et le soin que l'on doit apporter à la vigne, à un moment, je crois, c'est René qui dit alors à sa fille et à son neveu, la vigne, c'est pas un jeu.
Oui. Bien sûr que c'est pas un jeu, mais
les gamins ils veulent, pardonnez-moi Agnès, eux ils veulent essayer de faire des prouesses, d'aller vite et bien, mais il faut y mettre le temps et surtout une application remarquable.
Oui, il y a l'application, mais il y a aussi ce que René porte en lui de douleur, et on découvrira dans le livre quelle est cette douleur qu'il porte. Et qui fait qu'il fait cette réflexion aux enfants, c'est pas un jeu. Bon, je ne peux pas dévoiler, bien sûr, hein, mais, voilà. Mais c'est vrai que les enfants, pour eux, c'est un jeu, et c'est un jeu qui, parce qu'ils cherchent l'admiration du grand-père. En fait, ces deux gosses, et le petit Laurent en particulier, il a une relation de vénération pour son grand-père, d'admiration sans borne, et de rechercher cette admiration. En retour,
il a besoin de reconnaissance.
Il a besoin de la reconnaissance du grand-père. Il a besoin que le grand-père soit fier de lui. Et ça, pour lui, c'est le plus précieux des biens. Donc,
alors, vous l'avez dit précédemment, Agnès, il y a tout ce vocabulaire. Alors, les murgés, l'odeur des moûts en fermentation, les cuves de macération. Il y a le mustimètre. Qu'est-ce que c'est que le mustimètre? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de notes au bas de page qui permettent de toujours expliquer ces termes techniques.
Je voulais aussi raconter notre métier et en parler dans sa technicité, dans ses détails, sans que ça alourdisse trop le roman. Et j'espère être arrivé à cet équilibre où on informe, où c'est un peu didactique malgré tout, où j'explique le métier, mais où le roman l'emporte, je pense, sur ce côté technique. Et alors, un mustimètre, c'est un petit appareil qui sert à mesurer la richesse en sucre de ce qu'on appelle les moûts, les jus de raisin. Voilà.
Et alors, à la fin des vendanges, il y a la revoule.
Ouais.
Qu'est-ce que la revoule?
Ben, la revoule, c'est la fête en Mâconnais. On l'appelle comme ça en Mâconnais. C'est la fête de fin de vendange. Voilà. Donc, on a terminé, on a rentré la récolte et on fête ce bonheur d'avoir rentré la récolte avec les vendangeurs avant qu'ils s'en aillent.
Je rappelle le titre de votre roman, Les Racines au cœur. C'est aux éditions de l'Armançon. Et il y a même dans votre texte un verbe, c'est le verbe raciner.
Oui. Je l'ai utilisé dans le livre.
Oui,
c'est possible. Ah oui, enraciner. Ben oui, en parlant des greffes. D'accord, ça y est. Oui, bien sûr.
Le verbe raciner.
Il faut qu'elle racine. Oui, oui. On parle de ça. Oui, quand on dit que quand on greffe le greffon sur le porte-greffe, hein, depuis le phylloxéra, on est obligé de greffer nos vignes et il faut ensuite qu'elles produisent des racines et on appelle ça raciner. Alors c'est dans le terme sans doute un peu patois, peut-être, mais il faut que ça racine, oui, effectivement. Voilà.
Et il y a ce passage qui explique et éclaire le titre de votre roman. Je vais juste le lire, Agnès, si vous me le permettez. C'est au moment où il est question de déraciner une parcelle presque historique de cette famille Blanchard.
Oui, voilà.
Voici ce que l'oncle dit à son neveu.
C'est le grand-père.
C'est le grand-père qui dit ça
à son petit-fils.
À son petit-fils, donc Laurent, hein, Laurent Berger. Tu vois, ces racines-là, elles sont si vieilles qu'elles descendent loin sous la terre. Et quand elles vont si loin au cœur de la terre, elles sont plantées aussi bien profond dans le cœur du vigneron. Parce que ça veut dire qu'il les a travaillées toute sa vie et souvent son père avant lui, parfois son grand-père. Alors forcément, c'est difficile et ça fait mal de les arracher. Voilà. Le roman s'intitule « Les racines au cœur ». Alors, bien sûr, on est aussi dans l'époque, à la fin des années 70, il y a quelques événements plutôt musicaux d'ailleurs qui apparaissent. Hein. C'est l'époque, on entend le Thriller de Michael Jackson, le fameux slow, je crois que c'est Scorpion, Still Loving You,
oui,
c'est bien
c'est
ça, Agnès.
Oui, oui.
Ou encore Jeanne Masse qui chante « Toute première fois ». Enfin bon, les auditrices et auditeurs se le rappelleront. Il y a une petite phrase que j'ai adorée, c'est pour parler de ces femmes qui cancanent. Un des personnages appelle cela la gazette des souleveuses de rideaux. Je trouvais ça formidable.
Ah oui, mais ça,
on dit ça dans le Mâconnais ?
Non, je pense pas. C'est une expression personnelle, mais vous savez, dans les villages, il y a toujours une ou deux petites vieilles dont vous savez très bien que quand vous passez, le rideau va se soulever et vous allez avoir ces yeux qui vont regarder qui passe. Alors c'est moins vrai aujourd'hui où les villages sont peuplés de gens venus de la ville où on ne se connaît plus. Mais oui, à l'époque, oui, c'était ça.
Dans votre roman, Agnès Panet, page 109, vous parlez des longs moments de solitude de la vie de vigneron.
Ouais.
C'est toujours vrai ?
C'est toujours
vrai. En 2017 ?
Oui, c'est toujours vrai. Dans les grandes exploitations, moins, parce qu'on travaille à plusieurs. Hein. Quand une exploitation, aujourd'hui, fait 20, 30 ou plus hectares, il y a 5, 6, 7, voire plus ouvriers qui travaillent en même temps. Mais les petits vignerons, comme nous pouvons être, nous, oui, c'est un travail solitaire et c'est parfois difficile à vivre au quotidien, oui, cette solitude.
Ce qui est difficile aussi, c'est pour les filles, parfois, de partager la vie d'un vigneron. Il en est largement question dans le roman. Et on voit bien que les jeunes femmes, on va dire en ces débuts des années 1980, ont envie de s'émanciper,
oui,
et n'ont pas envie d'un mari en bleu de travail,
oui,
qui soit un peu esclave de la terre, qui exige beaucoup. Hein, même si la terre donne tout, mais...
Oui, oui. Alors ça a été très vrai dans la fin des années 70, parce que la vigne n'était pas encore... la viticulture n'était pas encore une production qui était très rémunératrice. Et par contre, bah vous avez tous les problèmes qui se posent aux agriculteurs en général. Hein. Ce sont des gens avec qui la vie familiale n'est pas facile, qui sont tous les jours dans leur travail, qui ont besoin qui sont soumis aux aléas climatiques. Le revenu peut être perdu en quelques minutes par un orage de grêle. Et c'est vrai que les femmes ont fui la réalité, la ruralité, pardon.
Oui, la réalité
la
de la ruralité, oui.
De la ruralité, parce que c'était très difficile à vivre. Bon, donc c'est vrai que dans mon livre, les personnages, on montre un petit peu ça, hein, ce besoin de modernité, cette fuite de ce qu'était la ruralité avant elle. Et ça n'a plus été aussi vrai après, parce que les vignerons se sont passablement enrichis. Hein. Ça n'était plus les parents pauvres de l'agriculture. Il y a même des vignerons aujourd'hui qui gagnent très très bien leur vie. Donc les femmes les ont moins fui peut-être qu'à une certaine époque.
Mais... Il est question dans le roman, au moment des années 80, de la concurrence des vins étrangers, notamment,
oui,
des vins qui viennent d'Algérie, d'Espagne, mmh, ou d'Italie.
Oui.
Cette concurrence, elle est toujours aussi forte ?
Elle n'est plus, en tout cas sur les vins d'appellation, elle n'est plus vraie avec ces pays-là. Elle est vraie avec des productions qui se sont répandues sur d'autres continents, avec aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud, où en fait les vins sont produits avec des coûts de production nettement inférieurs à ce qui est pratiqué en Europe et dans les zones d'appellation contrôlée où le foncier est très cher. Où il y a des normes imposées par les cahiers des charges d'appellation qui obligent à des coûts des coûts de structure et des coûts de fonctionnement beaucoup plus importants. Donc c'est vrai qu'il y a une concurrence mondiale, et la consommation mondiale, avec la mondialisation des exportations, hein, la facilité d'exportation aujourd'hui fait qu'on est tous sur un marché mondial avec des coûts de production qui ne sont pas équivalents. Donc oui, il y a une concurrence. Mais la France a cette chance d'avoir ses AOP, ses appellations d'origine, qui malgré tout les protège parce que c'est un nom, c'est une griffe.
Et nous n'ouvrirons pas le dossier du réchauffement de la planète, parce que là aussi, oui, les conséquences peuvent être terribles sur le monde de la viticulture.
Ce sera difficile, effectivement. Et on le voit déjà, on voit apparaître des parasites ou des maladies qui n'existaient pas dans nos régions. Et puis la vigne elle-même, les cépages sont adaptés à des régions, et les cépages du sud de la France ne sont pas les cépages de la Bourgogne. Peut-être que dans 50 ans... on aura chez nous des Carignans ou des Syrahs, qui sont les cépages du Sud.
C'était Agnès Panet pour son premier roman « Les racines au cœur », disponible aux éditions de l'Armançon. Vous pouvez vous le procurer en librairie, dans les maisons de la presse ou en passant commande sur le site internet des éditions de l'Armançon. Après la pause musicale, direction Israël et la Palestine en compagnie de Laurent Janin, infatigable photographe au sommet levant qui propose dans la collection d'e-aventure un nouveau carnet de voyage, 80 pages de textes et de photographies exclusivement en noir et blanc intitulé « À l'ombre d'une promesse ». On découvre Laurent Janin juste après la pause musicale que nous vous proposons, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à 22h.
Je t'ai tué au pied du lit. À relire mon passé, je fais mon insomnie. J'ai donné sans compter, à d'autres j'ai menti. Je pleure, je ris, à ne faire que claquer mes portes de sortie. Mais non, 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 je ne sais pas ce qu'il en reste, vraiment. Mais non, 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 mais la monnaie de la pièce, c'est toujours la vie qui nous la rend. Pour ce qu'il fallait faire, je me fous de ce qu'il fallait fuir. Mais les rires que je préfère me parlent d'avenir. J'avance les yeux fermés pour ne pas voir que trop grand. Nos jeux d'enfants retournent les sabliers et glissent avec le temps. Mais non, je ne sais pas ce qu'il en reste, vraiment. Mais non, 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 mais la monnaie de la pièce, c'est toujours la vie qui nous la rend. La vie qui nous la rend. Toujours pas trouvé plus sûr pour rester vivant que de fermer les yeux, ne vivre au corps présent. Vraiment. Mais non, 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 ne vivre au corps présent. Vraiment. Je sais pas ce qu'il en reste, vraiment. Mais non, 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 mais la monnaie de la pièce, c'est toujours la vie qui nous la rend. Vraiment. Vraiment.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Depuis 1977, Laurent Jeannin, photographe, parcourt le monde à la découverte de sa plus grande richesse, ses peuples. Il fait souvent le grand écart entre l'Amérique du Sud et l'Extrême-Orient, sans pour autant négliger l'Europe et bien sûr la France. Laurent Jeannin est parti en octobre 2016 durant 3 semaines en Israël. Il en revient avec un magnifique carnet de voyage, 80 pages de texte, et des photographies exclusivement en noir et blanc qui a pour titre « À l'ombre d'une promesse ». Sans plus tarder, Laurent Jeannin à notre micro, c'était le 29 octobre dernier, lors de la 10e fête du livre de Saulieu.
Je m'appelle Laurent Jeannin, donc je pratique la photographie depuis pas mal d'années, que je pratique donc en France mais partout, un peu partout dans le monde, depuis plus de 35 ans. Et j'essaie de comprendre le monde dans lequel je vis, finalement, en abordant des sujets de société. Là, je présente un livre « À l'ombre d'une promesse » sur un voyage que j'ai fait en Israël il y a un an, donc en octobre 2016. Donc le contexte israélo-palestinien, on le connaît par les médias, très conflictuel. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est d'avoir le sentiment de l'israélien ou du palestinien de la rue.
Une approche du quotidien et de la vie quotidienne des Israéliens et des Palestiniens dans un pays en crise d'identité, en crise d'unité, en recherche de quelque chose.
J'allais dire qu'il n'y a même pas de crise, c'est un modus vivendi. Le conflit israélo-palestinien, moi je suis né avec, mes enfants sans doute aussi, enfin on a toujours connu ça, on a l'impression d'avoir toujours connu ça. Et justement, comment on pense son quotidien dans un environnement aussi conflictuel? Est-ce qu'on a des loisirs? Quels sont-ils? Est-ce qu'on fait des études? Qu'envisage-t-on pour ses enfants? Quel travail on fait? Le sentiment de sécurité, comment est-il perçu? Est-ce qu'on imagine son futur ou est-ce qu'on vit au jour le jour? Voilà un peu les sujets que j'ai voulu traiter en allant là-bas.
Laurent Jeannin, en rencontrant et en bavardant donc en anglais avec des Israéliennes et Israéliens de tous âges, je suppose,
oui.
La parole se libère facilement, on parle facilement à un Français qui vient faire un photoreportage, peut-être dans leur esprit, ou un livre sur leur pays, sur eux, sur leur quotidien.
Alors pour commencer, je voudrais dire que je ne suis ni juif ni musulman, donc pour moi j'ai considéré que c'était un atout pour avoir un point de vue un peu plus distancé et un peu plus, on va dire, neutre, sans avoir de parti pris. Parce que c'est vrai qu'on est dans une dichotomie et on voit bien que même dans les médias en France, il y a du pro-israélien, du pro-palestinien, il y a des associations de tous bords et le politique est forcément obligé de s'engager là-dedans. Moi, justement, mon atout, ça a été de me sortir de ça, de dépasser, j'allais dire, cette guerre des cousins, et d'aborder vraiment le quotidien des gens. Alors j'ai parlé en anglais effectivement. Alors je dirais que peut-être pour une traditionnellement l'hospitalité palestinienne, on va dire arabe, est plus facile. Les gens sont peut-être plus chaleureux, alors que les Israéliens sont un peu plus sur la
méfiance.
Parce que je ne suis qu'un goy, hein, pour eux. Non, mais je veux dire, j'ai eu beaucoup plus de mal à entretenir des rapports chaleureux qu'avec les Israéliens. Alors c'est vrai que je connais quelques mots d'arabe, donc quelquefois ça permet de faciliter le contact, alors que l'hébreu m'est totalement inconnu.
La politique française est plutôt pro-israélienne que pro-arabe ? Il faut nuancer.
Je pense que ça a varié avec le temps. Hein. Sous Mitterrand, il y avait telle tendance. Sous Sarkozy, c'était plutôt pro-israélien, on va dire. Les États-Unis sont pro-israéliens de toute façon, traditionnellement, parce qu'il y a une communauté, une diaspora très, très représentée aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est un des sujets très de géopolitique qu'on ne maîtrise pas beaucoup et qui dépasse, j'allais dire, l'individu lambda de la rue.
Les Israéliens sont-ils uniquement englués dans leurs difficultés, dans leurs sécurité. Est-ce qu'ils ont conscience aussi de ce qui s'est passé en Europe, ces attentats terroristes islamistes, hein. Ils en ont conscience aussi, eux qui ont connu beaucoup de morts, beaucoup de bus piégés, de bombes.
Ah, bien sûr qu'ils en ont, conscience. Le monde étant hyper connecté, je veux dire, maintenant, il n'y a plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on imagine la communauté juive comme une communauté très prospère. Très prospère, hein, mais ça, j'allais dire, c'est peut-être la vision qu'on a de la diaspora. Il faut savoir que là-bas, il y a une part très importante de la richesse nationale, donc de ce qui est produit, qui sert à financer la sécurité, l'armement, et tout ça, ça se fait au détriment de la population. Donc les gens vivent très chichement là-bas en Israël.
Et un service militaire, Laurent Jeannin, qui effectivement n'est pas léger en termes de durée.
N'est pas léger, c'est 3 ans pour les garçons, 2 ans pour les filles. Hein, donc les filles ne sont pas épargnées, j'allais dire. Et chacun doit apporter sa contribution à l'effort de défense. À l'effort de défense. Mais ceci dit, dans la rue, j'ai remarqué qu'il y avait une atmosphère qui était assez pas trop tendue. Hein. Les jeunes sont en armes, enfin, garçons et filles. Ils gardent un certain sourire quand ils me voyaient passer. Ils voyaient que j'étais un touriste ou un voyageur. Je ne me suis pas senti moi-même en insécurité, enfin pas plus qu'en France, même si effectivement il peut y avoir un attentat au coin de la rue sans prévenir.
En fait, en Israël, et c'est le titre d'un des chapitres de votre reportage photographique, ou oui, livre de voyage, ou carnet de voyage, les carnets d'e-aventure, un chapitre a pour titre « Vivre ou survivre ». Et finalement, vous les avez sentis, ces Israéliens, plutôt dans une attitude de survie que de vie sereine, calme, tranquille. Y a-t-il une paranoïa permanente, sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête des Israéliennes et Israéliens?
Alors je pense que les populations sont des enjeux de pouvoir, de part et d'autre. Et la pression paranoïaque, j'allais dire, elle est plutôt insufflée de la part du pouvoir, hein, des gouvernements, de part et d'autre, pour mobiliser les populations à être sous pression finalement.
Mais est-ce qu'il y a une propagande organisé pour maintenir et créer un état d'esprit?
Bien sûr, la propagande, on la voit aussi au niveau des passages aux frontières, ces fameux checkpoints, hein, quand on va aller d'Israël en Palestine ou de Palestine en Israël, c'est vrai que c'est très tendu. C'est très tendu et les gens, je pense, ressentent vraiment cette pression quotidienne. Quand on est palestinien et qu'on doit aller travailler en Israël, c'est-à-dire franchir la frontière tous les jours, ce sont des fouilles, hein, on vérifie les téléphones portables, etc. C'est vraiment...
Mais elles sont systématiques.
Systématiques.
Ce n'est pas des contrôles aux faciès, c'est systématique.
Systématique, exactement. Voilà, c'est un peu ce qui... C'est le quotidien des Israéliens et des Palestiniens.
Et vous, Laurent Jeannin, avez-vous été contrôlé dans certains endroits publics en Israël? Ou pas fait l'objet de contrôle ou de zèle?
Alors, quand je suis arrivé sur le territoire israélien, déjà, même à Paris, avant que je parte, hein, on m'a demandé mes origines familiales, pourquoi j'allais en Israël, quel était mon travail, le nom de mes grands-parents, deux générations en avant. Et quand je suis arrivé, j'allais dire, même topo. Il y a vraiment... C'est là que se perçoit la paranoïa. Enfin, alors effectivement, il y a des attentats, on ne peut pas les nier, donc le dispositif sécuritaire se justifie sans doute, mais c'est vraiment très impressionnant pour qu'un Européen qui va là-bas.
Vous avez eu l'occasion d'aller au bord de la mer Morte, au bord du lac de Tibériade. Ça nous ramène bien sûr à ces lieux bibliques, enfin, qui sont quand même un peu le berceau d'une certaine, une certaine humanité spirituelle. Ah, impression.
Oui. Alors, le lac de Tibériade, la mer Morte, il ne faut pas imaginer des places paradisiaques avec des surfeurs. Tout ça. Non, non, je veux dire, les loisirs des gens là-bas sont vraiment très simples. Très, très simples. Il n'y a pas d'équipement à la mode, j'allais dire, pour, pour faire du kitesurfing, enfin tous ces sports à la mode qu'on voit sur nos plages en France ou même enfin occidentales en général.
Décor naturel, mais pas et aménagement spartiate.
Exactement. Les gens y vont en famille pour se détendre. Alors c'est le vendredi pour les populations arabes, hein, puisque le vendredi est le jour férié. Pour les juifs, c'est le samedi. Et j'allais dire, des villes comme Nazareth, hein, qui est chrétienne, le jour férié, c'est le dimanche. Et j'allais dire, la foi au sens religieuse, hein, de chacun impacte le mode de vie des autres. Et même moi, en tant arriver en plein Shabbat, quand on est étranger, tout est fermé. Il faut prévoir ça. On doit organiser son agenda en fonction des jours fériés, des fêtes religieuses.
On vous a demandé là-bas, quand vous avez parlé avec les Arabes ou certains Israéliens, quelle était votre religion?
Oui, alors effectivement...
C'est important pour eux de savoir
ce qui est vraiment... délicat, c'est de dire, admettons qu'on n'aurait pas de religion, qu'on serait athée ou agnostique.
C'est suspect.
Voilà, donc vaut mieux adopter un profil en disant, bah oui, je suis d'origine catholique, ce qui est le cas. Je suis né en France, j'ai été baptisé. Voilà, donc même si j'ai pas une pratique religieuse, voilà, par rapport à eux, je me suis défini comme catholique. J'allais dire pour apaiser et pas générer d'inconfort ou de...
Vestimentairement parlant, la religion se voit.
Ah, tout à fait, tout à fait. Là-bas, les hommes portent la kippa à 90%, à Jérusalem encore, bien plus encore. La kippa est le marqueur identitaire, comme le voile chez les femmes pour les pays arabes. Et ça, ça passe même avant la nationalité. Comme si les documents officiels étaient insuffisants pour définir une identité de façon assez puissante. Donc la religion, là, prend le pas, sur la nationalité, sur le drapeau.
Un petit mot sur ce fameux et célébrissime mur des Lamentations. Vous y êtes allé, Laurent Jeannin ?
Alors j'y suis allé en plein Shabbat un vendredi, et en octobre, c'est ce qu'on appelle la fête des cabanes ou de Soukhot, où là, c'est une fête dans le calendrier religieux juif, et là, il y a des moments de fête, et quand on va au mur des Lamentations, c'est pour prier. Donc pour y accéder moi-même, j'ai dû porter la kippa, parce que sinon on ne peut pas approcher le mur des Lamentations. Mais on voit vraiment une énorme ferveur chez les pèlerins ou les Israéliens qui vivent là-bas.
À l'ombre d'une promesse, cette promesse, c'est celle que de nombreux politiciens israéliens ont faite à leur peuple, une promesse qui n'arrive toujours pas à être vraiment honorée.
Alors la promesse, elle est historiquement inscrite dans la Bible, hein, on parle de la terre promise. Donc c'est déjà le point de départ. Mais la promesse maintenant, c'est de vivre en paix. Hein, on parle du processus de paix, mais ça fait des décennies qu'on parle d'un processus de paix. On voit des gens comme M. Rabin, M. Begin, M. Arafat, hein, qui ont tous reçu le prix Nobel de la paix, alors qu'en fait, la paix n'a pas été conclue.
Pas effective.
Pas effective, alors que normalement, un prix Nobel, il récompense une œuvre ou un résultat. Là, on est encore dans l'expectative. Donc, c'est vraiment très particulier. On sent plus ce prix Nobel comme un encouragement à obtenir le résultat qu'à le récompenser, parce que ce n'est pas le cas encore.
Retrouvez les références des ouvrages dont il a été question ce soir dans ce compte-rendu de la 10e fête du livre de Saulieu en vous rendant dès à présent sur le site d'archives de votre émission littéraire www.yannickpetit.fr. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce mercredi 29 novembre et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 21h sur Radion, pour une émission avec un écrivain que j'admire. C'est Jean-Pierre Canet, romancier, poète, dramaturge, lauréat du prix Bocas 2014 pour son recueil Le Grand Labeur, paru chez Rhubarbe en 2013. Il habite Vézelay et il revient sur le devant de l'actualité éditoriale avec un nouveau roman, disponible aux éditions de La Renverse, un nouveau roman qui a pour titre « Des noces rêvées ne meurent pas ». C'est donc la semaine prochaine au programme de Wagon Livre. Et puis, avant de nous séparer, je voudrais dire que le 21 décembre prochain, à partir de 18h30, le Club des écrivains de Bourgogne recevra au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon, réunion publique. Le Club des écrivains de Bourgogne réunira donc son public autour de Philippe Janada, qui a obtenu le prix Femina 2017. C'est au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon, jeudi 21 décembre prochain. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne fin de soirée à l'écoute de Radion. Au revoir et à la semaine prochaine.